Je vis une grande foule que personne ne pouvait dénombrer de tout peuple, de toute tribu, de toute langue, se tenant devant le trône, devant l'agneau, revêtus de d'aube blanche, les palmes à la main. C'est la liturgie du ciel vers laquelle nous sommes invités toujours à tourner nos regards, et pour cela, eh bien, nous avons la liturgie de la terre, la liturgie de la terre, qui est l'image de la liturgie du ciel. C'est certainement le sommet de la vie chrétienne. Étant le sommet de la vie chrétienne, il est hautement souhaitable que nous comprenions ce qu'est la liturgie, que nous comprenions ce que c'est. Alors, il est bien clair que je n'ai pas l'intention de traiter ce soir de l'ensemble du mystère liturgique, mais simplement d'un aspect essentiel, à savoir son symbolisme. Et de même, la question du symbolisme étant aussi une question très vaste, assez un terrain du reste assez glissant, peut-on dire, j'entends me limiter strictement au point de vue théologique. L'étude du symbolisme liturgique peut être objet d'histoire, objet de théologie et de philosophie de l'art. J'entends me limiter seulement au point de vue théologique, ce qui donnera un exposé qui sera peut-être abstrait, un petit peu difficile, mais où je pense pouvoir apporter quelque chose. Je crois que dans le domaine historique, il y a beaucoup d'ouvrages qui ont été faits sur l'histoire du symbole, sur l'histoire de la liturgie, sur l'art liturgique. Beaucoup d'ouvrages ont été faits et sont encore faits, qui sont excellents. Donc je ne pense pas avoir quelque chose à apporter là-dessus. Il est facile, relativement facile, de s'informer et de se former dans ce domaine. Par contre, ce qui est plus délicat, c'est d'avoir sur ces questions un regard proprement liturgique. Et pour un regard proprement théologique, pardon. Et pour considérer cette question du symbole, eh bien, je partirai tout simplement d'une constatation que tout le monde peut faire, à savoir la présence du monde sensible dans le culte divin. Notre religion n'est pas une chose abstraite, qui se compose uniquement de sentiments ou d'actes intérieurs, mais il y a des actes extérieurs, des actes sensibles qui comportent un certain nombre de choses matérielles. Et si on regarde la liste des prédicaments d'Aristote, on constate que toutes les réalités qui sont désignées par ces prédicaments se trouvent présentes dans la liturgie. Tout d'abord la substance, bien sûr, non seulement l'homme, bien sûr qu'il a quand même le sujet fondamental de la liturgie, mais il y a toute une série de matières, de substances qui sont utilisées dans la liturgie. L'eau, l'huile, le sel, le pain, le vin, les cendres, la pierre, le feu, la cire, l'or, on pourrait multiplier la liste, on pourrait allonger la liste. Les quantités, les nombres par exemple, les nombres dans la liturgie, les figures, comme le cercle, le carré dans l'église, la croix tout simplement. Les qualités sensibles, les couleurs, les sons et l'odeur également. Également le prédicament de relation. Prédicament un peu délicat à saisir, prédicament de relation qui est présent dans la liturgie essentiellement par l'ordre hiérarchique. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais d'égalité dans la liturgie, mais il y a toujours un ordre hiérarchique entre les personnes et les choses, même dans l'ordre des cierges. Lorsqu'on allume les cierges dans certaines cérémonies, lorsqu'on allume ou qu'on éteint plutôt les cierges dans le cours des cérémonies, on le fait dans un certain ordre. Le prédicament d'habitus, c'est-à-dire le prédicament qui désigne ce qui se rapporte aux habits et aux relations immédiates avec les choses, eh bien le fait de porter des vêtements, par exemple, des vêtements liturgiques, ou le fait de porter, d'avoir sur soi des choses sacrées, comme une mitre ou une crosse, par exemple. Le temps, en effet, c'est très important, les heures font partie de la liturgie. Selon les différentes heures de la journée, il y a des offices liturgiques. Et de soi, en principe, la messe également comporte certaines heures. Les jours, bien sûr, les jours et les saisons. Les temps de l'année liturgique, le temps, la succession des saisons et des jours, est contenue dans la liturgie, le jour liturgique. Le lieu, bien sûr, on ne célèbre pas la liturgie n'importe où. Il y a l'église, il y a le baptistère. Le prédicament de situs, de situation, de manière d'être, je veux dire manière de se tenir, l'orientation de l'Église, par exemple, la position que l'on prend, les inclinations, les génuflexions, par exemple, le fait d'être à genoux, debout ou assis, et puis enfin, ce qu'on pourrait appeler le prédicament d'action ou de passion, c'est-à-dire toutes les actions qui se font, le fait de se déplacer, le fait de briser, par exemple, de briser le pain, de briser l'hostie, l'aspersion et d'une manière générale tous les gestes. Eh bien, même si vous ne connaissez pas la doctrine des prédicaments d'Aristote, vous constatez que la totalité des réalités sensibles sont utilisées dans la liturgie. Et pourquoi donc? Eh bien, tout simplement à cause de la nature humaine. À cause de la nature humaine. La religion a des actes intérieurs qui sont principaux, mais il y a aussi des actes extérieurs qui sont secondaires et qui sont ordonnés aux actes intérieurs, dit saint Thomas d'Aquin. Certainement, la religion, le culte divin, est d'abord essentiellement un acte intérieur, mais il requiert aussi des actes secondaires qui sont sensibles. Et si l'on utilise ces choses, ce n'est pas parce que Dieu en aurait besoin, bien sûr, Dieu n'a pas besoin des choses sensibles, mais ces choses sensibles sont présentées à Dieu comme des signes des œuvres intérieures et spirituelles que Dieu accepte. Là encore, je cite saint Thomas d'Aquin dans le traité de la religion, dans la Secunda Secundae. Dans la tertia pars, dans la doctrine des sacrements, saint Thomas dit que la divine sagesse pourvoit à chaque chose selon sa nature. Or, il est connaturel à l'homme de parvenir à la connaissance des choses intelligibles, des choses spirituelles, par le moyen des choses sensibles. D'où l'utilisation des choses sensibles dans la liturgie. Une liturgie purement spirituelle ne serait pas conforme à la nature humaine. Il est donc nécessaire d'utiliser ces choses sensibles. Et quel est le rôle de ces choses sensibles? Eh bien, saint Thomas nous le dit dans la théologie sacramentaire, c'est d'être des signes. Et ainsi donc, si nous voulons comprendre ce que sont ces choses, quel rôle elles ont dans la liturgie, il faut d'abord comprendre ce que c'est qu'un signe, en général. Après quoi, on peut s'appliquer à préciser encore en disant que ces choses sont non seulement des signes, mais même des symboles. Le mot de symbole est très utilisé. Étant très utilisé, on finit par s'en servir à peu près pour n'importe quoi, pour justifier à peu près tout et le contraire de tout. Mais cela recouvre quand même une réalité extrêmement importante. Nous verrons la différence qu'il y a entre un signe et un symbole. Eh bien, constatons là encore que le signe est quelque chose d'indispensable pour la vie humaine, que ce soit dans le domaine civil, dans le domaine familial, dans le domaine politique, dans le domaine militaire, économique. Tout le champ de la vie humaine a besoin d'utiliser les signes. Que sont les billets de banque? Ce sont des signes. Et même les billets de banque ne sont rien, qu'une richesse. Ce sont des signes, tout simplement. Bon. Dans l'armée, il y a certains signes conventionnels. Les uniformes, qu'est-ce qu'un uniforme? C'est un signe également. Bien. Et de même, nous avons, nous-mêmes, dans notre vie, dans la vie familiale, des signes d'affection, et dans la vie professionnelle, également des signes qui sont propres à chaque profession, que ce soit pour le meilleur ou pour le pire. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un signe? Attention, un signe n'est pas une figure, n'est pas une image. En effet, lorsqu'il y a une figure, lorsqu'il y a une image, eh bien, on se contente de reproduire une qualité qui se trouve déjà dans la chose. C'est une sorte de copie, plus ou moins conforme, qui obéit à certaines règles. Mais une figure ou une image ne fait que répéter la qualité d'une chose. Tandis que le signe est séparé de la chose de manière beaucoup plus forte. Le signe, c'est quelque chose, bon, c'est une simple constatation de bon sens, je crois que tout le monde peut porter cette définition. Le signe, c'est quelque chose qui fait connaître autre chose que lui-même. Le signe, c'est quelque chose qui, à partir de la connaissance de soi-même, fait connaître quelque chose d'autre. Bon, vous pouvez le constater, par exemple, sur les traces, une trace d'un animal. On connaît d'abord la trace d'un animal, une figure dans la neige, et puis puis on en déduit que un animal, un chamois, un chien, est passé par ici. Eh bien, la trace est le signe de l'animal. Et vous voyez tout de suite alors qu'il y a deux aspects dans le signe. Dans une chose qui est signe, on peut la considérer comme chose, ou on peut la considérer comme signe. Je veux dire par là que, considérant une réalité qui est un signe, on peut la considérer de manière absolue, pour ce qu'elle est pour elle-même, considérer la trace, la figure qui est dans la neige, par exemple, ou bien la considérer comme étant relative à la chose signifiée. Et bien entendu, le signe se rapporte à l'aspect relatif. La signification est une relation. La signification est une relation. Le signe est quelque chose de relatif. Le signe n'est pas quelque chose d'absolu. Un signe qui se suffirait à lui-même, c'est d'une absurdité. Si j'écris sur un tableau, si je fais une figure au tableau, et que je ne le rapporte pas à quelque chose d'autre, eh bien, c'est incompréhensible. Poursuivant notre observation de la réalité, nous constatons qu'il y a deux sortes de signes. Il y a des signes dont la signification vient tout simplement de la nature, comme par exemple la fumée est le signe du feu. Ou l'autre exemple que j'ai donné, la trace de l'animal qui est le signe de l'animal. C'est ce qu'on appelle un signe naturel. Ça provient de la nature des choses. Mais en fait, dans notre vie humaine, nous utilisons assez peu ce genre de signes. Nous utilisons beaucoup plus fréquemment des signes qu'on appelle des signes qui ont reçu le nom dans le vocabulaire scolastique de signes conventionnels, c'est-à-dire que la signification vient d'une convention humaine. Par exemple, eh bien, les lettres. Les lettres sont des signes conventionnels. Parce que leur signification ne repose pas sur la nature des choses. On pourrait tout au plus dire peut-être que la lettre O représente l'ouverture de la bouche quand on prononce un O. Ce serait peut-être la seule concession qu'on pourrait faire pour admettre un signe naturel dans les lettres. Mais c'est tout, bien évidemment. Les lettres sont des signes conventionnels, elles ont une histoire, d'ailleurs l'écriture a toute une histoire. Peut-être qu'au point de départ on pourrait trouver une origine naturelle, c'est bien possible, mais en tout cas, j'aurais dit qu'aujourd'hui il n'en est plus question. Bon. Cette signification vient donc de conventions. Ces conventions du reste peuvent être très diverses. Ça peut être une loi, ça peut être une coutume, ça peut être un événement historique. Bon. Par exemple, je ne m'étendrai pas là-dessus, je crois que ces choses sont assez bien connues, vous savez que les premières armoiries de la noblesse étaient en fait fondées sur des événements historiques. Citons un exemple parmi d'autres. La chaîne qui est représentée sur les armes du royaume de Navarre se réfère à un épisode d'une guerre contre les Maures où le prince de Navarre avait emporté un camp maure et les chaînes de défense de ce camp s'étaient accrochées à son habit. C'est l'origine, n'est-ce pas, de la chaîne qui est représentée sur les armoiries, sur le blason de la Navarre. Bon, on pourrait reprendre tous les blasons, on pourrait trouver certainement des origines historiques semblables. Alors cet exemple montre quand même quelque chose, vous voyez. C'est que les circonstances, dans les signes conventionnels, les circonstances sont extrêmement importantes. Et surtout aujourd'hui. C'est qu'un signe conventionnel ne peut pas être considéré abstraction faite du contexte culturel, du contexte historique, du contexte social ou politique. On peut dire que les circonstances historiques sont, d'un point de vue physique, sont extérieures au signe, je veux bien, mais au signe en tant que chose absolue. Bon, si par exemple je considère le dessin des chaînes, le dessin des chaînes en tant que tel, pris comme absolu, n'a rien à voir avec ce qui a pu se passer quelques siècles auparavant. Bon. Mais si on veut le comprendre comme signe, comme symbole, on est bien obligé de se référer à l'histoire. Et c'est d'une grande importance pour la liturgie, j'ouvre une petite parenthèse, c'est que si l'on sépare les symboles liturgiques de leur origine historique, on peut en changer la signification. Lorsque, par exemple, on nous propose de revenir aux sources et de prendre dans la liturgie des signes de l'Église primitive qui ont disparu depuis plus d'un millénaire, eh bien, en fait, on ne reprend pas les symboles de l'Église primitive, on fait autre chose. On fait autre chose. Formellement, matériellement, c'est peut-être la même chose, mais formellement, c'est tout autre chose. Prenez le cas de la communion dans la main, par exemple. En admettant d'ailleurs que dans l'Église primitive, on est communié dans la main de la même manière qu'on le fait aujourd'hui, ce sera encore une autre question à voir, mais peu importe, eh bien, il est clair que le contexte est totalement différent. Et on pourrait multiplier les exemples. Donc, le contexte est très important pour comprendre la signification d'un signe conventionnel. Si l'on regarde de plus près ces signes conventionnels, bon, j'aurais pu citer le langage également, j'aurais pu citer les drapeaux sont des signes conventionnels également, il y a quand même quelque chose qu'il faut noter et qui est très important également pour la liturgie, c'est qu'il est rare, que ces signes conventionnels ne comportent pas quand même en grande partie un point de départ naturel, ce qu'on pourrait appeler un fondement naturel. Dans la liturgie en particulier, vous voyez, l'eau du baptême, comme tous les symboles sacramentels, est un signe conventionnel. Si l'eau du baptême est utilisée pour le baptême, c'est parce que ce sacrement a été institué par notre Seigneur Jésus-Christ, tout simplement. Et que notre Seigneur Jésus-Christ a institué ce sacrement en utilisant de l'eau. Donc, ce qui est fondamental, c'est évidemment l'institution du Christ et la signification qu'il faut lui attribuer. Bien. Mais, bien sûr, on peut aussi expliquer que l'eau du baptême représente la purification, représente la lumière. Il y a un fondement naturel, voyez-vous, il y a les deux. Et la plupart des signes que nous trouvons dans la vie courante, prenez l'exemple des signes du code de la route, eh bien, les signes du code de la route ont quand même un minimum de fondement naturel. Quand on représente un croisement, bon, c'est sûr que le panneau avec le croisement reçoit sa signification de par une loi. La loi qui a institué le code de la route. Enfin, si les panneaux du code de la route signifient quelque chose, c'est parce qu'il y a une loi. S'il n'y avait pas de loi du code de la route, eh bien, les panneaux ne serviraient à rien, ce serait incompréhensible. Bon. Donc c'est une loi, en définitive, qui décide de la signification des panneaux du code de la route. Il n'y empêche qu'il y a un fondement naturel. Il y a un fondement naturel parce qu'on fait un petit schéma, un petit dessin, qui représente plus ou moins la figure. Donc c'est la figure qu'on représente un croisement. On représente un croisement de route. Bien. Donc il y a en général les deux. Et alors comment les choses s'arrangent-elles? Alors je ne vais pas détailler cela. C'est assez facile de comprendre que le signe n'ayant qu'une seule signification, le signe en tant que, si vraiment c'est un signe, il a une seule signification. En définitive, c'est l'institution qui commande. On peut chercher beaucoup de convenances dans la nature, mais en définitive, c'est la loi qui institue le panneau, c'est pas qui commande. C'est pas, vous pouvez pas dire à un agent de police, mais vous savez, moi j'interprète les panneaux autrement. C'est pas possible. Il y a une loi qui porte, en définitive, quelle doit être la signification. Si je vois le croisement ainsi, si je dis j'ai la priorité, eh bien on me dira, mais non, c'est pas vrai. Vous n'avez pas la priorité, vous pouvez pas interpréter comme vous voulez. C'est la loi qui décide. Alors en définitive, même s'il y a un fondement naturel, c'est en définitive la loi, autrement dit la convention humaine, qui décide. Et je le répète, cette convention humaine peut être une loi, ça peut être aussi une coutume, ça peut être un fait historique, etc. Mais alors il y a une chose, il y a eu de très profondes analyses, je me permets de le signaler, mais je ne peux pas développer cela ici, il y a eu d'assez profondes, disons assez précises en tout cas, analyses sur ce rapport entre le fondement naturel et le fondement conventionnel, à propos de la théologie sacramentaire qui a été développée par les commentateurs de saint Thomas pour expliquer qu'en définitive c'est la convention et c'est la loi qui donne formellement la signification et qui se rapporte à la nature un peu comme la forme se rapporte à la matière. Il y a des analyses assez fines, mais je pense que ce n'est pas utile de rentrer dans ces détails parce que ça correspond tout à fait au bon sens, simplement. Alors quand même une chose qui est très importante à voir dans ce rapport entre l'institution, la loi ou l'institution, la signification conventionnelle, et puis la nature, c'est que la fondation conventionnelle repose quand même sur la nature. Voyez-vous. Bon, on n'imagine pas de faire un signal indiquant un croisement de route avec un dessin complètement farfelu. Bon. Il faut quand même qu'il y ait une certaine correspondance. Autrement dit, la signification conventionnelle présuppose quand même la signification naturelle. Et présupposant la signification naturelle, il faut que la nature existe. Il faut que la nature existe. Il convient qu'elle existe, ou même il est nécessaire qu'elle existe. Alors, prenons un exemple très simple. Prenons l'Eucharistie. Il est clair que pourquoi le pain est-il la matière éloignée de l'Eucharistie? Mais parce que notre Seigneur l'a institué ainsi. Donc en fait, ce qui commande, ce qui dirige, c'est l'institution. C'est par le Christ, parce que le Christ l'a institué. Si le Christ n'avait pas institué l'Eucharistie, nous pourrions faire toutes les cérémonies que nous voudrions avec du pain, on ne ferait pas d'Eucharistie. Donc ce qui fonde, c'est l'institution du Christ. Mais si le Christ a pris le pain, c'est parce que le pain est la nourriture, qu'il veut représenter donc la nourriture qu'est son corps. Eh bien, si je célèbre une cérémonie avec un faux pain, je ne sais pas, imaginons un pain qui ne serait pas du pain de froment, du pain de seigle, ou je ne sais trop quoi encore, ou du riz, ou ce que vous voudrez, bien la messe est invalide, tout simplement. La messe est invalide. Il n'y a pas le fondement naturel. De manière plus générale, même lorsque ça ne met pas en cause, la validité des sacrements, l'utilisation de choses fausses n'est pas conforme à la tradition liturgique. Il y a eu parfois, dans les siècles antécédents, certaines habitudes, n'est-ce pas, d'utiliser des fausses matières dans la liturgie. Voyez. Eh bien, bon, c'est possible, effectivement. Mais ça n'est pas, ce qui est plus conforme à la liturgie, c'est d'utiliser des objets qui soient des objets de la cire, qui soient de la cire, de la pierre, qui soient de la pierre, etc., etc. Donc la liturgie va utiliser ces matières comme signes. Signes formellement conventionnels, mais fondés en nature. Mais en restant seulement à la notion de signe, je n'ai pas encore dégagé toute la richesse de ces matières liturgiques. Il faut aller un petit peu plus loin et parler de symboles. Et d'essayer de cerner un petit peu ce qu'on entend par symbole et en quoi le symbole se distingue du signe en général. Bon. Le symbole, effectivement, est un certain signe, mais il y a quelque chose de plus. Comment le caractériser? Le symbole, en général, et surtout le symbole liturgique, se caractérise par le fait, tout d'abord, qu'il est à la fois un et multiple. Il se distingue par son institution, il se distingue par le mode de connaissance, et enfin par la richesse de signification. Regardons les caractères les uns après les autres. D'abord, dans le symbole, et en particulier dans le symbole liturgique, il y a unité et multiplicité. Je m'explique. C'est que matériellement parlant, le symbole est quelque chose de complexe. En général, la liturgie et le symbole liturgique comprend un certain nombre de matières. Si vous considérez une cérémonie dans son ensemble, voyez. Si vous considérez une cérémonie dans son ensemble, vous verrez qu'il y a quand même une certaine complexité. Si vous regardez par exemple la cérémonie du baptême, évidemment, si vous réduisez la cérémonie du baptême à la stricte partie nécessaire pour la validité, bon, c'est assez simple. Bien que ce soit quelque peu complexe, puisque vous avez l'eau, en même temps les paroles et le geste, n'est-ce pas? Il y a l'eau, le fait de verser l'eau, et puis le geste, et puis les paroles, pardon. Donc vous avez déjà une certaine complexité. Et puis, si vous considérez l'ensemble de la cérémonie du baptême, depuis l'entrée dans l'église jusqu'à la fin, vous voyez que la cérémonie est assez compliquée, enfin relativement complexe. Et alors, ne parlons pas alors des consécrations épiscopales ou encore de la dédicace des églises. Ce sont des cérémonies qui sont relativement délicates. Eh bien, ceci nous montre que qu'un symbole liturgique en particulier, comporte tout un ensemble de qualités naturelles, de traditions, de coutumes et d'événements historiques. Au-delà des éléments naturels, il y a donc des éléments historiques, culturels et humains qui rentrent dans la signification. Et dans ce domaine, lorsqu'on examine les symboles de la liturgie, je ne veux pas le détailler parce que ce serait un exposé d'histoire qui nous entraînerait trop loin, mais de fait, on ne doit pas nier que dans les symboles liturgiques de l'Église entrent des éléments d'origine païenne, romaine ou grecque. On doit parfois constater qu'on peut faire des rapprochements avec d'autres religions, qu'il y a certaines similitudes. Et alors, on serait tenté, certains sont tentés alors, de voir dans ces symboles liturgiques catholiques Et puis les symboles qu'on peut trouver dans d'autres religions, dans les religions païennes, se trouvaient comme des origines communes, comme un fond commun. Et là, je crois que l'analyse théologique est absolument nécessaire si on veut discerner les choses. C'est que, matériellement parlant, il est vrai, on ne peut pas nier qu'il y ait parfois certains rapprochements à faire. Par exemple, la nativité de notre Seigneur et la nativité de Saint Jean-Baptiste ont lieu à peu près au solstice, au moment des solstices. Et à ce moment-là, il y avait effectivement des fêtes païennes, à ces mêmes dates, dans la Rome ou dans la Grèce antique, dans la Rome antique. On peut noter que l'Annonciation à la Très-Sainte Vierge et la fête de Saint-Michel-Archange, au mois de décembre, ont lieu, par contre, aux équinoxes. On peut constater que la fête de Noël s'accorde avec le cycle solaire. Bon, le 25 décembre, donc, c'est le calendrier solaire. Bien. Par contre, la fête de Pâques est évidemment en conformité avec le cycle lunaire. Bon. On peut constater aussi que le zodiaque est un signe de l'univers. Et vous trouvez dans les églises romanes, vous trouvez presque toujours les signes du zodiaque. Bon. Comme signe du fait que c'est une créature de Dieu. Alors, dans ce domaine, on pourrait dire beaucoup de choses. Il suffit d'être renvoyé aux ouvrages historiques. Alors, comment considérer cela? Est-ce que nous devons en être troublés? Est-ce que nous pouvons douter alors de la divinité de la religion catholique? Est-ce que nous pouvons croire que la religion catholique a inclus du paganisme en elle? Non, pas du tout. Ça prouve simplement que l'Église a assumé les significations naturelles, l'histoire, la civilisation, et en particulier la civilisation gréco-romaine. Donc, tous ces éléments sont entrent dans la matière de la signification liturgique. Je dis bien dans la matière. Mais la signification formelle vient de l'institution. La forme de la signification liturgique, la forme du symbolisme liturgique, c'est l'institution par le Christ ou par l'Église. Pour les cérémonies, je dirais, le Christ n'a institué que la matière des sacrements, pour le développement du cérémonial, c'est bien évidemment l'institution de l'Église. Eh bien, à partir du moment où l'Église prend en charge cela, ce n'est plus du tout la même chose. Formellement, ce n'est plus du tout la même chose. Si on en reste à un point de vue descriptif, on peut constater des rapprochements. C'est aux historiens de départager. Je n'entrerai pas dans ce domaine. Mais d'un point de vue théologique, formellement parlant, nous ne parlons plus de la même chose. Ce n'est plus du tout le même symbole. Ce n'est plus du tout le même symbole. Il faut bien considérer que tous ces rapprochements ou tout ce que l'Église a pu prendre de la civilisation gréco-romaine, tout cela est dans l'ordre de la matière. Mais du fait que l'Église l'a assumé et lui a donné une signification déterminée, du point de vue de la forme, nous ne parlons plus du tout des mêmes choses. Il y a équivoque. Si donc on parle de rapprochement, et si on veut assimiler la liturgie catholique à des cérémonies, je ne dis pas liturgie parce qu'en dehors de l'Église catholique, il n'y a pas de liturgie. Si on veut assimiler les symboles de la liturgie catholique avec des éléments d'autres religions, eh bien, on fait tout simplement une équivoque. Formellement, nous ne parlons pas des mêmes choses. Et c'est cette distinction entre la signification formelle et puis la matière qui permet de ne pas être effrayé des études historiques. Des études historiques, il y a une parfois, voyez, quand on se trouve confronté, comme à notre époque, et d'ailleurs ceci dépasse bien la question du symbolisme, lorsqu'on se trouve confronté à des attaques contre la tradition, contre la religion, surtout à l'époque moderne, et ça ne manque pas, il y a une attitude timorée parfois qui consiste à refuser les problèmes et à refuser de voir les choses. C'est pas une manière intelligente de réagir. Nous avons la vérité, nous avons les principes, nous n'avons pas peur. Donc, s'il y a des éléments, des recherches historiques qui manifestent certains rapprochements, que ce soit conforme à la science historique, ce qui sera encore à voir, bien, ma foi, je dirais que nous n'avons pas à être effrayés de ces choses-là. Nous savons, de toute façon, que l'Église assume les symboles. Elle assume les symboles des civilisations antérieures, elle assume les symboles de l'Ancien Monde, elle assume, bien sûr, les symboles naturels. Or, si les symboles sont naturels, c'est pas étonnant qu'on puisse en trouver des éléments dans d'autres religions. Ce n'est pas dans des religions païennes, n'est-ce pas? Il faut bien comprendre que nous ne parlons pas formellement des mêmes choses. En dehors de l'Église, le symbolisme liturgique n'existe pas. On ne parle pas des mêmes choses. Ce sont des éléments qui rentrent dans la composition, dans la matière. Ça peut être intéressant de les étudier, mais cela ne touche pas la signification formelle qui a été instituée par l'Église. Formellement, nous ne parlons pas des mêmes choses. Le symbole est donc multiple, j'en étais toujours à cette notion d'unité de multiplicité. Le symbole liturgique donc comporte une certaine multiplicité, une certaine origine matérielle, historique, plurielle, mais l'unité de la signification vient de l'Église, et c'est pourquoi il n'est pas possible de donner au symbole liturgique une autre signification que celle de l'Église. Il n'est pas possible, c'est un contresens, c'est un mensonge, que d'attribuer au symbole de la liturgie une autre signification que celle que l'Église a instituée. C'est tout simplement contraire à la réalité. À partir du moment où cette chose est prise dans une liturgie catholique, sa signification est catholique. Un point signe. Le reste n'est qu'équivoque et mensonge. Et cela vient de l'Église. Et ceci nous amène à un deuxième point très important du symbole liturgique, c'est son institution. L'institution du symbole vient du Christ et de l'Église. Et par conséquent, un symbole liturgique ne peut pas être inventé au gré des circonstances. Les symboles liturgiques nous viennent de l'Église, par l'autorité de l'Église, par la tradition de l'Église. Il n'est pas possible d'avoir un symbole liturgique au gré des circonstances, des époques, des cultures ou des caprices de l'un ou de l'autre. On ne peut pas inventer la liturgie, ça n'est pas possible. Les symboles liturgiques viennent du Christ et de l'Église. Alors, on peut avoir des idées géniales sur ce que pourrait être un symbole aujourd'hui et sur ce qu'il conviendrait de faire eu égard aux circonstances. Si on invente un symbole, on ne fait plus de la liturgie catholique. Parce qu'on se sépare de la tradition de l'Église. C'est l'Église qui institue les symboles. Et les symboles ont été institués au cours de l'Église. Et ça suppose tout un héritage. Et donc, inventer in abstracto une liturgie en disant « Mais moi, je pense qu'on pourrait peut-être utiliser cet objet et qu'on pourrait lui faire représenter ceci ou cela. » Ce n'est plus de la liturgie. C'est du, je ne sais pas ce que c'est du symbolisme personnel, peut-être. C'est peut-être génial, peut-être, je ne sais pas. Ça peut être spirituel, mais ça n'est certainement pas surnaturel. Ça n'est certainement pas catholique, voyez-vous. Et il faut bien noter, attention, que nous ne sommes plus dans la période de fondation de l'Église. Notre Seigneur a institué l'essentiel des sacrements. Bon, selon certains sacrements, il faut distinguer d'ailleurs, peu importe. Et puis, les apôtres et les premiers pères de l'Église ont fondé la liturgie. Ils ont fondé ce symbolisme. Ce sont les pères de l'Église qui ont incarné l'Église dans la civilisation. Cette incarnation n'est plus à faire. Nous héritons de cette fondation des pères. Il n'est plus possible de changer. Nous sommes des héritiers de cette tradition. Elle n'a pas changé, ça n'a jamais changé. Quelques modifications de détails ont pu être apportées, mais nous sommes maintenant dans la période de maturité de l'Église, et il ne nous appartient pas de réinventer les symboles. Et c'est pourquoi il n'y a jamais eu de révolution liturgique dans l'Église qui ne vienne en fait des sectes hérétiques. Tous ceux qui ont transformé la liturgie étaient des hérétiques parce qu'ils voulaient changer le dogme. Le changement de liturgie correspondait à un changement de doctrine. Je dirais même, avant même d'examiner de quel changement il s'agit, un changement important est toujours le signe d'une rupture. Il ne peut pas y avoir de changement important dans la liturgie. Je dis important parce qu'il peut y avoir des modifications et des évolutions qui sont dans le développement normal d'un organisme vital, mais qui ne sont pas une rupture avec le passé. Mais à partir du moment où il y a une rupture avec le passé, nous ne sommes plus dans le même organisme, nous ne sommes plus dans la même chose, nous ne sommes plus dans la même religion, nous ne sommes plus dans la même église. Ce n'est pas possible. Les symboles liturgiques ont été institués dans la période de fondation de l'Église par les pères, et depuis ce temps-là, nous ne pouvons plus changer. Donc l'institution est fondamentale. Elle fait partie, là encore, elle fait partie de l'essence du symbole. Si l'institution ne fait pas physiquement partie de la chose qui est symbole, elle fait partie de l'essence même du symbole en tant que symbole. Autre note du symbole liturgique, c'est la manière dont il s'adresse à notre connaissance. Notons tout de suite que le symbole nous fait connaître quelque chose, puisqu'il est un signe, mais il fait connaître une chose de manière tout à fait particulière. C'est que le symbole ne s'adresse pas à l'esprit comme un discours scientifique. Le discours scientifique n'est pas un symbole. Il est un signe, mais il n'est pas un symbole. Le discours scientifique est un signe, forcément, puisque c'est du langage, donc c'est un signe de certains concepts. Mais ce n'est pas un symbole, parce que le discours scientifique fait appel à la science, à l'abstraction. Il donne une expression à des concepts. Il fait appel à l'abstraction de l'intelligence. Tandis que le symbole, même s'il peut faire appel à l'abstraction de l'intelligence, s'il y a une parole, par exemple, il fait appel à l'ensemble de la nature humaine, et pas seulement à l'intelligence abstraite. Le symbole fait appel à toute la sensibilité. Le symbole fait appel à une sorte, ce qu'on pourrait appeler l'intuition artistique, c'est-à-dire cette sorte d'appréhension du réel qui ne termine pas à une abstraction conceptualisée. Lorsque, par exemple, on contemple un paysage, eh bien, on a une certaine connaissance de la nature, mais qui ne termine pas par un jugement ou par un concept abstrait. C'est une sorte de prise sur la nature qu'on peut appeler, faute de mieux, intuition poétique, voyez-vous. Le symbole fait appel à ce genre de connaissance. Le symbole fait appel à l'affectivité. Le symbole, en définitive, fait appel à l'action, c'est-à-dire qu'il demande même à celui qui perçoit le symbole de rentrer dans cette action. Lorsque, par exemple, nous chantons à l'église, nous chantons la liturgie, eh bien, il y a toute une évocation qui passe d'ailleurs par la musique grégorienne et par la poésie biblique et qui est symbolique. Et elle fait appel à notre action, c'est-à-dire que nous chantons nous aussi. Nous ne nous contentons pas d'être spectateurs passifs du symbole, mais nous entrons dedans en quelque sorte. Le symbole, voyez-vous, fait appel à toute notre nature. On pourrait certainement analyser ça de manière beaucoup plus profonde. Je suis content de donner cette note générale, voyez-vous. Le symbole fait vraiment appel à toute la nature humaine et pas seulement à l'intelligence abstraite. L'intelligence abstraite intervient bien un peu s'il y a du langage, voyez-vous. Si par exemple ce sont des paroles bibliques, bon, les mots doivent signifier quelque chose, donc forcément il y a l'abstraction. Mais on ne s'arrête pas là. On ne s'arrête pas là, bien sûr. Vous comprenez bien d'ailleurs que lorsque la Bible parle utilise des mots pour parler comme par exemple de la colère de Dieu, et bien la colère de Dieu c'est évidemment un symbole. C'est pas Dieu ne se met pas en colère de manière littérale. Vous voyez d'ailleurs le lien entre d'ailleurs la métaphore et puis le symbole. On pourrait développer cela également. Et alors cet aspect total du symbole liturgique nous montre aussi pourquoi la liturgie ne peut pas être perçue immédiatement d'un seul coup. Voyez-vous ? Je veux dire par là qu'une cérémonie liturgique n'est pas une définition dogmatique et n'est pas une exposition scientifique. Un exposé scientifique est compris immédiatement, pour autant qu'on comprenne les mots. Bon, si on a un niveau d'études scientifiques suffisant, si on connaît suffisamment le vocabulaire théologique, on comprend l'exposé, ça demande une certaine réflexion parfois, mais de soi, ça peut être compris immédiatement. Et le catéchisme en particulier, auquel j'attribuerais cette mesure scientifique, quand je parle de discours scientifique, je veux dire par là le discours qui utilise des mots selon l'univocité ou l'analogie propre, dans le cas même du catéchisme, en principe c'est fait pour ça, d'ailleurs ça doit se comprendre très facilement. Bon. Eh bien, au contraire, une cérémonie liturgique ou un symbole liturgique se découvre petit à petit, parce qu'il parle à l'ensemble de l'homme. Eh bien, une partie de l'influence de ce symbole liturgique peut ne pas être consciente. On rentre dans une cérémonie liturgique, on assiste à une cérémonie liturgique, je dirais on est imprégné par cette cérémonie liturgique, et tout ce que l'on a assimilé n'est pas forcément conscient. N'est pas forcément conscient. Et la liturgie est donc plus difficile d'accès. Je dirais, elle est peut-être plus attirante, la liturgie est plus attirante qu'un discours scientifique, ça je veux bien le croire. Je dirais que c'est plus, à tout point de vue, la liturgie, il me semble, nous capte plus qu'un discours. Le discours demande quand même plus d'efforts que la participation à la liturgie. Donc apparemment c'est plus proche, mais en fait c'est plus difficile d'une certaine manière, parce que pour aller jusqu'au bout, et pour tout comprendre, bien, ça demande, je dirais, presque toute une vie. Je n'exagère pas. Je pense que ça demande toute une vie pour pénétrer vraiment la liturgie. Bon, je pense, on peut bien croire que si on isole un symbole en particulier, on peut arriver, bon, comprendre des choses assez facilement. Mais si on regarde l'ensemble d'une cérémonie, l'ensemble d'un psaume, par exemple, les psaumes en grande partie sont des discours symboliques, eh bien je crois qu'on n'a pas trop de toute une vie pour arriver à le pénétrer. Alors cette sorte de connaissance par le moyen du symbole peut nous sembler inférieure, elle peut nous sembler déficiente, elle peut nous sembler regrettable. Eh bien en fait, elle est absolument indispensable pour l'accès au surnaturel. Si en effet, lorsque vous parlez d'une réalité naturelle, comme par exemple, je ne sais pas, le soleil, la lune, les animaux, eh bien, on peut dire que pour pénétrer la nature même des choses, le discours scientifique est certainement plus puissant que le discours métaphorique ou poétique. Bon, quant à son attrait, c'est peut-être autre chose, quant à son attrait pédagogique, c'est peut-être autre chose, mais enfin, quant à la connaissance même de la nature des choses, bon, il est clair, plan naturel, que le discours métaphorique bon, peut sembler un auxiliaire plutôt affectif, hein, sans grand intérêt. Mais lorsque nous entrons dans le domaine surnaturel, c'est autre chose. Parce que le surnaturel échappe à nos conceptions humaines. Le surnaturel ne rentre pas dans nos catégories. Cela ne veut pas dire que le discours scientifique ne puisse pas traiter du surnaturel. Toute la théologie est là pour le faire, et du fait traitant du symbole liturgique, je fais de la théologie, donc j'atteins bien du surnaturel par mes paroles. Mais, il n'empêche que le discours scientifique, étant tiré des créatures, ne peut pas atteindre le mystère de Dieu. Le mystère de Dieu, et donc le mystère surnaturel, est au-delà des expressions scientifiques. Alors il faut autre chose. Et c'est là que la connaissance symbolique intervient. C'est là que la connaissance symbolique intervient. Il me plaît ici de citer Denis l'Aréopagite. Les essences et les ordres qui nous dépassent sont incorporels. Il s'agit des anges. Leur hiérarchie, la hiérarchie angélique, appartient à l'ordre intelligible et transcende notre monde. Dans la hiérarchie humaine, nous verrons au contraire se multiplier à la mesure de notre nature propre, la variété des symboles sensibles pour être proportionnée à notre nature qui ne peut pas atteindre immédiatement les choses spirituelles. Il faut une variété de symboles sensibles qui nous élève hiérarchiquement, c'est-à-dire selon un ordre, jusqu'à l'unité de la déification autant qu'elle nous peut être accessible. Nous essayons d'atteindre Dieu, qui est parfaitement un. Eh bien, pour atteindre Dieu, qui est parfaitement un, qui est au-delà de notre connaissance, il faut une multiplication de symboles. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire, d'ailleurs, sur cette expression de Denis, sur unité, sur déification, bon, peu importe, je n'entends pas ici exposer sa pensée, qui du reste, bon, doit être, si on veut la recevoir, doit être un petit peu quand même précisé, voire rectifié, comme l'a fait saint Thomas d'Aquin. En tant qu'intelligence, les essences célestes possèdent autant qu'elles ne peuvent faire sans sacrilège l'intuition intellectuelle de Dieu et de la vérité divine. Bon, les anges n'ont pas besoin de symboles. Évidemment, c'est absurde de parler de symboles à propos des anges. Pour nous, c'est au moyen d'images sensibles que nous nous élevons autant que nous pouvons, jusqu'aux contemplations divines. Bon, autrement dit, pour atteindre le monde surnaturel, il nous faut des symboles. Et c'est là qu'apparaît également une fonction du symbole liturgique qui, je dirais, est peut-être l'opposé de celle que je viens de dire. C'est que si le symbole liturgique nous permet d'avoir accès au mystère surnaturel, il est également une barrière de protection face au mystère surnaturel. Je veux dire de manière concrète que celui qui n'a pas été initié au mystère chrétien, celui qui ignore le mystère chrétien, assistant à une cérémonie liturgique, n'y comprend rien. Peut-être quelques impressions générales qu'il arrive à saisir, mais c'est tout. Et c'est normal. Et il doit en être ainsi. Il faut qu'il y ait une barrière. Et il ne faut surtout pas profaner nos mystères sacrés pour en faire une sorte de publicité de la religion. Pardonnez-moi l'expression, mais on aurait parfois une tendance un peu trop humaine et naturelle de considérer la liturgie en disant « Oui, la liturgie c'est beau, n'est-ce pas, ça attire les gens, pédagogiquement c'est intéressant, c'est joli, Mais ça, c'est de la publicité. Je ne sais pas si ça, ça sent la propagande touristique, mais ça n'est pas la liturgie sacrée. C'est pas ça. On doit respecter le mystère. Et c'est pourquoi je pense que l'explication des mystères sacrés, eh bien, convient aux personnes qui veulent progresser dans la connaissance du mystère chrétien, mais pas aux personnes qui s'y intéresseraient d'un point de vue purement culturel ou phénoménologique. Certainement pas. C'est pas... Sancta sanctis, hein, comme dit la liturgie grecque. Sphirtia, sphirtia. Les choses saintes aux saints. Alors, c'est ce que... Là encore, bon, c'est ce que dit Denis l'Areopagite également, mais je crois que ça, ce n'est pas propre à Denis l'Areopagite. Ça, c'est le respect qu'a l'Église pour les choses sacrées. On ne profane pas les choses sacrées. Donc il y a des choses qui sont cachées. Et je dirais, c'est peut-être une des fonctions du latin. C'est peut-être pas la plus importante. Mais si le latin est une certaine obstacle à la compréhension, ben après tout, c'est pas plus mal. Parce qu'il faut une distance, vous comprenez. Quand on fait la liturgie dans un langage profane, comme une distance qui a été coupée, quelque chose qui ne va pas. Quelque chose qui ne va pas, il y a un respect qui n'y est plus. Il n'y a rien à faire. Hein. Bon, il y a d'autres, beaucoup d'autres raisons pour justifier le latin. Mais il y a encore celle-là, c'est le respect du sacré. Autre point, enfin, je voudrais... aller assez vite cette fois pour ne pas tarder trop. La richesse de signification du symbole. J'ai dit, le symbole a une signification, c'est celui que lui donne l'Église. Et en dehors de la signification que lui donne l'Église, eh bien, ça n'est rien. Bon. Mais même dans cette signification que donne l'Église, il y a une certaine multiplicité. Je veux dire par là que, d'une manière générale, le symbole a une richesse de signification qu'on ne peut pas exposer, qu'on ne peut pas exploiter, découvrir très rapidement. Et de manière plus précise, il faut reconnaître que le symbole a effectivement, le symbole liturgique a une pluralité de significations. Mais attendez, si nous disions que le symbole liturgique a une pluralité de significations, sans préciser, ce serait dire alors que le symbole liturgique est essentiellement ambigu et qu'en fait il serait plusieurs signes à la fois. Certainement pas. Parce que si un symbole liturgique signifie des réalités multiples et hétérogènes, alors il ne signifie rien. Il n'y a pas d'unité de signification. Donc en fait, il y a à la fois unité et multiplicité. Or, que se passe-t-il ? Que se passe-t-il lorsqu'il y a unité et multiplicité ? Il y a ordre. Et en fait, c'est cela. Le symbole liturgique n'est pas ambigu parce qu'il comporte un ordre de signification de ce qui a précédé, à savoir la passion du Christ, signe démonstratif de ce qui s'accomplit en nous par cette passion, c'est-à-dire la grâce, et enfin annonciateur de la gloire future. Autrement dit, le signe ou le symbole liturgique signifie un événement passé. Il signifie un épisode de la vie du Christ et foncièrement sa passion, les événements de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Il signifie ce qui se passe actuellement, notre sanctification, et il signifie enfin ce qui viendra plus tard, c'est-à-dire la gloire éternelle. Alors, selon les sacrements, selon les éléments, les symboles, ces trois significations, passé, présent, avenir, sont quelque peu diversifiées. Cela vaut pour tous les symboles. Bon, saint Thomas dit cela à propos des sacrements, en général des sept sacrements, et il l'applique dans une antienne se rapportant à l'Eucharistie, la fameuse antienne au Sacrum Convivium. Inco Christus sumitur, recolitur, memoria passionis eius. Le Christ est consommé. Cela rappelle sa passion, il y a la mémoire de la passion, et la gloire future est annoncée. Bon. Mais c'est vrai de manière générale. Prenez par exemple le temps de l'Avent. Il est connu que le temps liturgique de l'Avent symbolise l'avènement du Christ dans l'histoire, l'avènement du Christ dans nos âmes, l'avènement du Christ dans la gloire future. Et c'est pourquoi le premier dimanche de l'Avent comporte le récit du jugement dernier avec l'avènement du Christ. On serait a priori un peu surpris si on dit, mais écoutez, le temps de l'Avent, c'est la préparation de Noël, qu'est-ce que vient faire le jugement dernier là-dedans ? C'est que le temps de l'Avent commémore effectivement l'avènement historique de notre Seigneur à Noël, mais annonce également l'avènement futur. Donc vous avez dans tous les... On pourrait prendre tous les symboles liturgiques en général, tous les éléments de la liturgie, on trouverait toujours cette triplicité, voyez-vous. Donc ce n'est pas une ambiguïté, c'est bien une triplicité de signification, mais qui est parfaitement une, parfaitement ordonnée. Mais cela vous laisse deviner quelle est la profondeur des symboles liturgiques et qu'on n'a jamais fini d'entrer dans ce symbolisme. Le symbole liturgique comporte donc tout l'ordre surnaturel. Tout l'ordre surnaturel est importé dans le symbole liturgique. Il est impossible, par conséquent, de concevoir un symbole liturgique qui ne ferait pas référence à la totalité du mystère. On ne peut pas, en définitive, extraire un symbole liturgique et essayer de lui donner une explication qui fasse abstraction d'une partie du mystère chrétien. Ce n'est pas possible. Tout est absolument, lié, inséparable. Il est impossible d'opérer une division dans le mystère chrétien, de telle sorte qu'une partie du mystère chrétien serait symbolisée sans que les autres parties soient symbolisées, voyez-vous. Prenons d'autres exemples, le baptême. Par exemple, le baptême est le symbole de la mort et de la résurrection du Christ. Pas seulement symbole de la résurrection, il est symbole de la mort et de la résurrection. On est enfoui dans l'eau et on ressuscite. Donc il y a les deux à la fois. Et ça nous montre pourquoi les symboles liturgiques en dehors de l'Église ne signifient rien. Et inversement, les symboles liturgiques eux-mêmes sont interdépendants, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent être pleinement compris qu'en relation les uns avec les autres. Il est impensable de comprendre véritablement les symboles de la Sainte Messe si on ne se réfère pas à l'ensemble de la cérémonie de la Sainte Messe. Je dirais même que si on veut comprendre pleinement, autant qu'on puisse y arriver, mais disons d'une manière assez convenable, les symboles de la Sainte Messe, je crois qu'il faut se référer en plénitude à la messe pontificale et même à la messe papale. Parce qu'on ne se réfère pas à la messe papale ou à la messe pontificale, il y a des éléments de la liturgie qui ne peuvent pas être compris. Un symbole liturgique est incompréhensible s'il est abstrait du tout qu'est la liturgie. Et c'est pourquoi le meilleur commentaire de la liturgie, en définitive, c'est la liturgie elle-même. Sans doute y a-t-il des livres liturgiques, c'est vrai, des livres, des explications de la liturgie, c'est bien utile, mais la plupart du temps, je crois qu'on comprend la liturgie et en la pratiquant, et en méditant et en priant sur la liturgie. Et alors les choses se découvrent. Vous savez, je pense en particulier aux psaumes, on peut avoir recours aux commentaires des psaumes, c'est certainement très bien, mais je crois que si on prie les psaumes quotidiennement, et on finit, je dirais presque instinctivement, on finit par comprendre et par découvrir. Ainsi donc, c'est tout un ordre que nous sommes invités à découvrir. Il apparaît donc au-delà de l'expression scientifique théologique, mais non pas contre, au-delà mais pas contre, outre, je dirais même, outre la théologie scientifique, eh bien, il y a une découverte du mystère qui se fait par le symbole liturgique. Et c'est pourquoi Denis Larue-Pagite parlait, à juste titre, et d'ailleurs les pères et saint Thomas ont repris tout à fait cette expression, il y a une théologie symbolique, c'est-à-dire une connaissance du mystère de Dieu qui se fait par mode de symbole. Ce n'est pas contre la théologie scientifique, c'est même, je dirais, interdépendant. Mais cette découverte n'est pas scientifique, elle n'est pas abstraite. Elle engage la totalité de notre vie, elle engage tout le chrétien. Le monde sensible, concluons là-dessus, le monde sensible n'est pas séparé de l'adoration. C'est l'économie même de notre religion qui est une religion de l'incarnation. Si Dieu lui-même s'est fait homme, s'il s'est fait touchable et visible, c'est précisément pour fonder la liturgie. Le monde sensible n'est pas séparé de la vie de l'Église. Le symbolisme liturgique n'est donc pas un adventice pédagogique ou une quelconque publicité. Si toutes les œuvres de Dieu bénissent le Seigneur, eh bien c'est précisément parce que l'Église les offre dans sa liturgie. Je vous remercie de votre attention. Alors, je suppose qu'il doit y avoir pas mal de questions. C'est pas mal d'idées qui peuvent susciter des objections, des questions. Alors, le symbolisme dont j'ai parlé, c'est le symbolisme liturgique. Et j'ai montré que le symbolisme liturgique était le moyen pour nous d'accéder au sacré, au surnaturel. Il est bien clair que le symbolisme non liturgique est aussi le moyen d'accéder au surnaturel et au sacré. D'où le fait en particulier que les mystiques utilisent le symbolisme pour s'exprimer. Car, voyez-vous, l'expression mystique a une double difficulté. D'une part, elle traite de surnaturel, ce qui est déjà une première difficulté. Et une deuxième difficulté, la mystique traite de choses internes, intimes, hein, de la connaissance et de l'amour humain. Et surtout de l'amour, puisque la mystique est d'abord charité. Or, si les questions relatives à l'intelligence sont déjà assez subtiles au plan scientifique, la philosophie de la connaissance est quand même une question assez délicate, la connaissance surnaturelle n'en parlons pas, alors ce qui est d'ordre affectif, encore plus. Et donc, pour exprimer la mystique, on aura recours au symbolisme. Et je dirais pour exprimer même le surnaturel. Donc, le surnaturel peut avoir deux expressions, une expression qui est scientifique et une expression qui est symbolique. Alors, on retrouve cela non seulement dans la liturgie, mais même dans la littérature mystique, dans la littérature des pères. Il est clair que les pères, mais l'écriture sainte, tout simplement. L'écriture sainte. L'écriture sainte, c'est un langage. Prenez les paraboles de notre Seigneur. Le langage scientifique est une élaboration humaine que Dieu laisse à son Église et qui est à notre portée. Mais notre Seigneur lui-même s'est surtout exprimé, surtout pas exclusivement, hein, mais surtout exprimé en langage métaphorique. Vous voyez. Je crois qu'il y a une petite frontière. C'est, les apôtres le remarquent eux-mêmes, c'est à partir de la dernière scène, où les apôtres disent eux-mêmes à notre Seigneur, mais maintenant vous ne parlez plus en parabole. Effectivement, à partir de la dernière scène, dans le discours de Saint Jean, par exemple, discours eucharistique, qui est rapporté par Saint Jean, là vous avez un langage qui est quand même beaucoup moins métaphorique, beaucoup plus propre, beaucoup plus scientifique même, d'une certaine manière, beaucoup plus théologique, effectivement. Alors qu'auparavant, notre Seigneur s'exprime de manière métaphorique. Donc la métaphore, le symbole est extrêmement important pour exprimer le sacré. Mais alors, la difficulté, c'est que comme il n'est pas scientifique par définition, il peut être très dangereux, il a besoin d'être interprété, d'être expliqué. D'où la nécessité absolue de la théologie scientifique. S'il y a le symbole et s'il y a la métaphore, mais s'il n'y a pas le discours scientifique, alors il peut y avoir l'Église définie en matière. L'Église porte des définitions dans un langage scientifique. Les définitions des conciles sont dans un langage scientifique qui est le plus connaturel d'une certaine manière. Qui est le plus connaturel à la connaissance intellectuelle. Dans son ordre, je dis bien dans son ordre, la connaissance théologique scientifique est première. Voyez. Donc ce sera toujours cela, et en définitive, c'est cela qui va régler, en définitive, qui va déterminer. Voyez, là, s'il y a une hésitation sur quelconque signification, c'est en définitive le langage scientifique qui va régler les choses, qui va juger de la métaphore. Oui. Alors, attention, je n'ai pas. Voyez-vous, les nombres, au début, n'est-ce pas ? Au début, quand j'ai parlé des prédicaments, j'ai dit les choses sensibles rentrent dans la liturgie, et j'ai tout de suite parlé des signes, parce que c'était la chose la plus simple. Mais il est clair que toutes ces choses-là, en fait, sont des symboles dans la liturgie, bien plus que des signes. Donc, les nombres, en fait, les nombres dans le langage courant, n'est-ce pas ? Les nombres que nous utilisons en arithmétique sont des signes, pas plus que ça. Mais on peut parler d'un symbolisme mathématique aussi, mais c'est pas dans ce sens-là. Mais par contre, dans la liturgie, oui, c'est bien plus que des signes, ce sont des symboles, tout à fait. Le nombre 3, le nombre 7, toute la symbolique des nombres qui, bon, tant qu'il faut, enfin, qui est aussi quelque chose d'assez délicat, vous voyez, parce que sur ce terrain, on peut beaucoup. Il faut faire très attention, voyez-vous, dans les. La symbolique catholique est traditionnelle. C'est-à-dire que c'est pas soumis à notre interprétation subjective. Alors quand on hésite sur un symbole, on se demande vraiment ce que ça symbolise, il faut avoir recours à la tradition. Et la tradition, c'est d'abord le magistère, et puis les pères de l'Église. Voyez. Quand on quitte les pères et le magistère pour aller pour recourir à des auteurs suspects, alors là, c'est un petit peu dangereux. Voyez. La symbolique liturgique s'explique par les pères et par le magistère. Ça s'explique pas par les découvertes géniales de telle ou telle personne. Ça s'explique par la tradition de l'Église. Disons, l'état, si on se réfère, ça dépend de quel domaine, voyez-vous. Pour la messe romaine, je crois que l'état quasi définitif a été établi par Saint Grégoire le Grand. C'est pas Saint Grégoire le Grand. Je crois que c'est l'état quasi définitif. Mais il y a quelques éléments qui sont dans le développement normal de la dogmatique et de la piété, comme par exemple l'élévation. C'est pas l'élévation qui était rajoutée au Moyen-Âge, qui est tout à fait dans la ligne de la vénération du Saint-Sacrement et de la lutte contre les hérésies. Mais la structure essentielle de la messe est achevée au temps de Saint Grégoire le Grand. Il y a des parties, on ne sait pas, vous savez, il y a des parties de la messe dont on ne sait pas exactement jusqu'à quel moment elle remonte. On a des documents, mais l'existence de ces premiers documents n'affirme pas qu'il n'y a rien eu avant. Vous voyez, donc c'est assez délicat à saisir, c'est assez délicat à décider parfois. Je pense pour l'Église, je pense qu'il faut se fixer, pour l'Église latine, j'entends. Pour l'Église latine, il me semble qu'il faut se fixer sur Saint Grégoire le Grand. Structure essentielle a été. Quand on parle de la messe de Saint-Pie-V, vous voyez, ce mot messe de Saint-Pie-V est un petit peu malheureux, parce que ça peut entraîner des confusions. On croit que Saint-Pie-V a inventé une messe, n'est-ce pas? Et alors il faut se baser sur cette messe qui a été inventée au XVIe siècle. Alors évidemment, si c'est contre saint, contre saint, c'est pas vrai. Il y a la messe catholique, c'est la messe catholique latine, et puis c'est tout. C'est la messe catholique latine qui a été codifiée pour la dernière fois par Saint-Pie-V. Les dernières codifications remontent à Saint-Pie-V. Ce n'est pas une messe inventée par Saint-Pie-V. Oui. Alors pourquoi le latin et pas le grec? Là, je crois qu'il faut se référer encore à la fondation de l'Église. Ce sont les pères de l'Église qui ont établi ces choses-là. Alors, au début, la liturgie était en grec, effectivement. Et puis, il est apparu. Quelles sont les raisons? On peut toujours, dans la mesure où les pères n'expriment pas pourquoi, ne disent pas pourquoi, il y a quelques éléments, par exemple, à propos de la modification de la musique. Bon, les pères ont dit pourquoi. Mais pour ce qui est du langage, de la langue, à ma connaissance, il ne me semble pas qu'on puisse trouver la raison du passage au latin. Je crois que il y a... Comment dire, l'Église... Nous sommes dans la période de fondation de l'Église. Nous sommes dans la période de fondation de l'Église, qui n'est pas la nôtre actuellement. Nous sommes dans la période de fondation de l'Église. Alors, l'Église s'incarne dans une civilisation. La civilisation qu'elle... c'est la civilisation gréco-latine. Donc elle prend la langue de cette civilisation. Bon, au début, c'est le grec, parce que c'est la langue la plus internationale, la plus prestigieuse aussi, dans les que le latin est plutôt une langue plutôt utilitaire, disons, pratique, plus juridique, plus administrative, plus politique. Mais enfin, c'est quand même une langue qui correspond à la civilisation. Donc l'Église l'assume. Bon, il y a d'autres raisons, une autre raison également, c'est le tempérament occidental et latin et le tempérament oriental. Le latin correspond mieux à la mentalité occidentale, parce qu'elle est plus juridique. Comment? Oui, plus précise, disons. Donc c'est la raison pour laquelle l'Église adopte le latin. Alors pourquoi pas autre chose? Eh bien, c'est que l'Église latine se fonde et elle s'étend dans l'Empire romain. Et puis historiquement, eh bien, ce sont ces nations de l'Empire romain qui évangélisent. Donc, le latin reste la langue de l'Église. Alors, mais est-ce qu'on n'aurait pas pu concevoir que l'Église, s'incarnant parfois dans d'autres civilisations, n'aurait pas pu adopter une autre langue liturgique? Mais de fait, c'est ce qui s'est passé. De fait, c'est ce qui s'est passé. Le Gèze pour l'Éthiopie, le Copte pour l'Égypte, le slavon donc pour les peuples slaves. Donc il y a beaucoup de langues orientales sont tout à fait liturgiques. C'est pourquoi je pense que l'affirmation de Don Guéranger est un petit peu exagérée, n'est-ce pas, quand il dit mais les trois langues au sommet de la croix, l'hébreu, le grec et le latin, par conséquent il y a trois langues sacrées, l'hébreu, le grec et le latin. Bon, ça, je suis désolé, mais c'est controuvé, c'est pas le... Même si on peut dire que l'introduction du slavon est relativement tardive, il y avait déjà auparavant le copte et d'autres langues, donc je crois que l'argument ne vaut pas quand même. Mais c'est le fait que l'Église s'incarne dans une civilisation et elle prend une langue ancienne, une langue digne, voyez-vous, mais pas une langue vernaculaire. L'Église n'a jamais utilisé le vernaculaire. Elle a utilisé, bon, la langue du pays, le latin ou du pays grec, qui correspondait à la langue vernaculaire, mais lorsque l'Église s'est étendue dans d'autres régions de l'Empire, où le latin était la langue des fonctionnaires, n'était pas la langue du peuple, eh bien l'Église n'a pas pris la langue du peuple. On n'a pas évangélisé l'Angleterre ou la Bretagne à l'époque, ni l'Hibernie, ni la Germanie avec la langue vernaculaire. Je suis désolé, on n'a pas fait la liturgie en langue vernaculaire à ce moment-là. Et c'était déjà dans les premiers siècles, vous voyez. Donc, les gens, il a fallu attendre le XXe siècle, où les gens sont, paraît-il, très instruits, justement, pour poser un problème. Et avant, ça n'a jamais posé de problème. Ça n'a jamais posé de problème. Mais alors, si on pose le problème dans l'abstrait, on pourrait concevoir, n'est-ce pas, que l'Église s'incarnant dans une civilisation qui ne serait pas gréco-latine pourrait éventuellement assumer. Théoriquement, le problème pourrait être posé en soi. D'abord, il faudrait d'abord qu'il y ait une civilisation. Il y a un minimum de civilisation naturelle, c'est déjà. On élimine quand même pas mal de choses. Et puis, en soi, dans l'abstrait, ça pourrait se concevoir, mais l'évangélisation ayant été faite par l'Église, une Église de, latine ou grecque, eh bien, il est normal qu'on conserve cette langue sacrée. Oui, il y a d'autres raisons, la question de l'immobilité de la langue, la conservation du dogme, bien sûr, la conservation du dogme, malgré l'évolution de la langue aussi. Mais l'inculturation, je pense, voyez, deux obstacles, enfin il y a plusieurs obstacles à ce qu'on appelle l'inculturation aujourd'hui. C'est d'abord, nous ne sommes plus dans la période de fondation de l'Église. C'est-à-dire, nous héritons d'une tradition. Ce n'est plus la même chose. Ensuite, deuxièmement, il faut qu'il y ait une langue digne, susceptible, il faudrait trouver à ce moment-là une langue digne, susceptible d'être sacrée et suffisamment universelle. Et suffisamment universelle, voyez-vous. Et puis, une question d'immobilité du dogme également. Il ne faut pas que la traduction entraîne une dégénérescence du dogme. Mais surtout, je pense que, voyez, pour faire la liturgie, on doit utiliser des objets en or, des objets précieux. Eh bien, la liturgie doit se faire dans une langue relativement précieuse, relativement digne. C'est pas possible d'avoir une liturgie qui change de langue tous les 50 kilomètres, par exemple. Voyez-vous, quand vous pensez à certaines peuplades, il y a des dialectes locaux, c'est impensable de prendre un dialecte local. Il faut une langue suffisamment universelle. Je trouve ça un des problèmes pastoraux de l'Église de l'Afrique actuelle, d'ailleurs, c'est ça. C'est quand vous avez dans le même pays plusieurs dialectes, alors c'est impossible de s'y retrouver. Les gens se jalousent les uns les autres, parce que les messes ont lieu à différentes heures selon les dialectes. Évidemment, chacun veut avoir la messe la plus pratique. Alors c'est des histoires invraisemblables. Pour l'Église d'Orient, actuellement, l'Église gréco-catholique, il y a un problème assez grave. C'est que les gréco-catholiques ont cru bon, n'est-ce pas, suite au concile, et puis actuellement, après la baisse du rideau de fer, eh bien, la chose est en train de s'étendre en Orient, de passer aux langues nationales. Résultat, l'Église gréco-catholique se morcelle et la religion, l'Église gréco-catholique devient une affaire nationale. Une affaire nationaliste, vous comprenez. Prenez juste une chose que je connais un peu. Vous voyez, c'est que le slavon est une langue universelle des peuples slaves. Par conséquent, on peut célébrer la liturgie en slavon aussi bien à Kiev qu'à Moscou, qu'à Lvov, qu'à Minsk ou ailleurs, vous comprenez. À partir du moment où vous prenez la langue nationale, eh bien vous faites de la religion une affaire nationale et nationaliste. D'ailleurs, c'est ce qui se passe actuellement. On en fait une affaire nationaliste. Alors, comme on est en rébellion contre Moscou, ben voilà, on va prendre, n'est-ce pas, la liturgie en ukrainien ou en biélorusse, n'est-ce pas, alors que le biélorusse est parlé par presque personne, vous comprenez. Mais l'histoire d'être contre Moscou, alors, l'Église tombe dans le nationalisme, on ne sait pas ce que ça va faire. Et alors vous allez avoir des villes un peu cosmopolites, ou alors vous allez avoir différentes églises selon les différentes langues, pour la même liturgie. Alors c'est absurde. C'est absurde. Alors, dans nos pays, bon, ça ne présente pas trop de conflits, enfin, c'est très, très grave, je veux dire, mais là-bas, en plus, se greffe une affaire politique. Une affaire politique. Et à ce moment-là, l'Église catholique semble être une affaire politique. C'est le meilleur moyen d'entraîner une confusion générale. Oui, c'est ça, les nations. Mais disons, là, je crois que c'est la traduction, n'est-ce pas, qui est un petit peu... On traduit, n'est-ce pas, gentes, n'est-ce pas, c'est pas tout à fait... C'est pas du tout... Enfin, vous avez le terme de nation, là encore, c'est le concept médiéval de nation et le concept actuel sont vraiment tout à fait différents.